journal des auditeurs avec Nadir Djennad sur Africa numéro 1.
Africa.
Le journal des auditeurs, c'est votre émission. Bienvenue, la parole est à vous pendant 30 minutes sur la radio africaine. Aujourd'hui, mercredi 20 mars 2019, dans le JDA, quelle place aujourd'hui pour la langue française en Afrique? Nous posons cette question à l'occasion de la journée internationale de la francophonie, le 20 mars. Selon l'Organisation internationale de la francophonie, avec 300 millions de francophones dans le monde, la langue de l'Hexagone se porte bien à l'international. Présente sur les 5 continents, le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée dans le monde après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Et selon le dernier rapport de l'OIF, l'Afrique est le cœur battant de la francophonie. Nous en parlerons avec Bruno Bernard, maître de conférence, consultant pour la Commission européenne et spécialiste de la francophonie. Pour nous donner votre avis sur le sujet, posez des questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00. Mais avant d'évoquer notre sujet du jour, on écoute vos messages laissés sur le répondeur d'Africa.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour, chers amis du JDA. Oui, j'interviens concernant l'école ivoirienne. L'école ivoirienne est bien partie pour avoir une année blanche cette année encore. Et la preuve, c'est que hier, les étudiants ont commencé à manifester. On a commencé à les taper dessus. La police de Ouattara les tape dessus. Il y a eu même un étudiant qui a eu la jambe cassée. Deux qui ont eu le bras cassé. Et la police les charge parce que ils manifestent. La police arrête les enseignants parce qu'ils revendiquent leurs droits. Mais on va où là et on est où dans ce pays? On est dans un pays qu'on ne peut pas manifester pacifiquement. C'est pas les manifestants qui cassent tout ou qui font des choses, qui posent des dégâts. Mais les gens manifestent pour revendiquer leurs droits. Ben non. Ou à travers chargés par la police, on les tabasse, on gèle leurs avoirs, on confisque leurs salaires. Ben je ne comprends pas. Et comme certainement ils n'ont pas été longtemps à l'école ou ils savent pas que l'éducation est la base de tout, ben ils empêchent les enfants d'aller à l'école, ils empêchent les enseignants de faire leur travail. Est-ce que cela est normal? Et je n'appellerai pas ça moins de la dictature, mais je dirais que c'est de l'incompétence. Ici, quand on voit des manifestants qui ça va pas, mais on met tout le monde au garde-boue, que ça soit les policiers ou autres, mais en Côte d'Ivoire, non, la police tape. Merci, chers amis du JDA.
Bonjour. Si les gilets jaunes s'attaquent à ce lieu hautement touristique que sont les Champs-Élysées, c'est pour donner une image internationale à leur mouvement. Par conséquent, les pouvoirs publics ne doivent pas se contenter de leur interdire le champ. Il faut leur interdire aussi le Trocadéro, le Champ de Mars, Sacré-Cœur, l'église Notre-Dame, voire le palais de Versailles. D'autre part, Emmanuel Macron, outre que c'est un provincial comme eux, car il vient de Picardie, n'est pas le responsable de la relégation spatiale des provinces de France. Cette relégation remonte bien avant à l'époque Giscard d'Estaing, voire de Gaulle. Vous rendez-vous compte que dans certains coins de province, il n'existe même pas la DSL. Ils en sont encore à la TNT. À s'ajouter de cela, les agriculteurs face à des coûts de production exorbitants, vus plus mal que des smicards, voire plus que des RMIs. À cela s'ajoute l'absence d'infrastructures, car si à Paris, on a des métros, des RER, là-bas, on est obligé de se déplacer en voiture. Et taxer les carburants et limiter la vitesse à 80 km/h n'était pas une bonne décision. À cela s'ajoute les déserts médicaux, car les médecins rechignent à s'y rendre. Exactement comme en Afrique francophone. Et les femmes accouchent dans des voitures, car le premier hôpital se trouve à 20 km de leur lieu de résidence. Merci.
Bonjour, Africa numéro 1. Je demande toutes mes condoléances à l'armée malienne et ils ont leur famille. Les 16 militaires qui sont tombés au centre du Mali. J'ai dit les peuples maliens, le temps que les peuples maliens se réveillent. Les sécurités d'État maliens, le général Moussa Diawara, qui a fêté son anniversaire la semaine passée, il a invité Fallou Poupa, le centenaire, le milicien congolais. Il a donné des centaines de millions. Ils ont fait des voitures cadeaux. J'ai dit, général Moussa Diawara, le chef de sécurité d'État, il doit démissionner. La ministre de Défense, il doit démissionner. Il doit partir. Les premiers ministres doivent partir. Mais ces gens-là, ils ne sont pas là pour les peuples maliens, ils sont là pour isoler leur famille. Un pays qui est en guerre, un général qui va fêter son anniversaire, qui invite Fallou Poupa, et qui est en train de distribuer l'argent partout, gauche à droite. l'armée en train de se combattre. Ces pauvres jeunes qui ont 20 ans, qui ont 22 ans, qui ne savent même pas bien manipuler les armes. Les généraux, ils sont à Bamako, en train de rouler dans les belles voitures, dans les 4x4, maisons climatisées. Aller donner les enfants des autres à la mort. J'ai dit, le peuple malien, il est temps que vous allez vous lever, vraiment dégager ces gens-là. Merci, que Dieu bénisse l'Afrique.
Bonjour à tous, Victor. Là, ce message contre les leaders des gilets jaunes ici en France. Franchement, je dirais de ces voyous-là. Parce que là, ce n'est plus cette revendication qu'on a connue. Voilà, sociale. On a besoin de ça, parce qu'on n'avait pas bouclé les fins du mois. Tous, nous avons des problèmes ici en France. Nous avons des problèmes de ce bouclage de fin du mois. Mais le niveau là où il s'est arrivé, ce n'est plus normal. Tout ce qu'ils ont cassé le samedi passé, franchement, je suis dégoûté de ces voyous-là. Ils prennent d'une situation pour en arriver à une autre. Casser Fouquet, vous allez casser chez Fouquet. Vous allez brûler des voitures, vous allez faire des choses, je dirais, qui salissent l'image de la France. Moi, la France, c'est pas mon pays, c'est rien que ma terre d'accueil. Moi, mon pays, c'est le Congo-Brazzaville. Mais la France a une image rayonnante, une image dominante, si vous voulez, à travers le monde. Mais ce qu'ils font, ce n'est pas seulement contre Macron qu'ils le font, mais c'est contre leur propre pays. Je leur ai dit, moi, mon pays d'origine, c'est le Congo-Brazzaville. Donc la France, ce n'est pas mon pays. Je ne veux pas aimer la France parce que le Congo, ce n'est pas possible. Ça sera trahir mon identité. Mais je suis contre ce qui se fait. Merci, au revoir. William.
Bonjour, Africa numéro 1. La société civile en Côte d'Ivoire n'existe que de nom. En réalité, ils sont tous politisés. Votre invité, Mme Pucheri, est SPI de la tête jusqu'aux pieds. Elle est présentement à Paris, mais j'ai vu des photos où elle a reçu des militants proches du Front populaire ivoirien. Mais ceux de l'opposition et ceux du pouvoir ont été ignorés par cette dame. Donc il ne faudrait pas qu'elle vienne nous faire croire que la lune est un gâteau. Madame Pucheri, vous êtes SPI, soyez sincère avec vous-même. Moi j'ai dit au pouvoir de faire très attention. La société civile en Côte d'Ivoire n'existe pas. Et il y a un exemple, les enseignants qui grévissent actuellement, ces syndicalistes, mais c'est tous des militants de l'opposition. Voilà, ils ne mènent pas un combat pour l'école, mais ils mènent un combat politique, c'est ce qui est la vérité. Idriss, bonne journée.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci pour vos messages. Vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00, le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Avec 300 millions de francophones dans le monde, la langue de l'Hexagone se porte bien à l'international. Présente sur les 5 continents, le français est aujourd'hui la 5e langue la plus parlée dans le monde, après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Selon les prévisions de l'Organisation internationale de la francophonie, le nombre des locuteurs du français pourrait varier entre 477 millions et 747 millions à l'horizon 2070. Ce boom linguistique s'explique essentiellement par le boom démographique que connaît l'Afrique selon l'OIF, selon le dernier rapport de l'OIF, le cœur battant de la francophonie. Mais quelle est justement la place réelle du français en Afrique, dans le domaine économique par exemple? Quelle est sa perception? Est-elle perçue encore comme la langue du colonisateur dans certains pays? Pour en parler, nous avons en ligne depuis Bruxelles, en Belgique, Bruno Bernard. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'intervenir. Vous êtes enseignant, maître de conférences, également consultant pour la Commission européenne, et vous êtes un spécialiste de la francophonie, notamment économique. Alors, tout d'abord, est-ce que vous partagez l'optimisme de l'OIF quand il dit dans son dernier rapport que la langue française se porte bien à l'international?
Oui, la langue française se porte très bien à l'international, et même mieux qu'en France, puisque en France, vous pouvez constater dans les médias qu'on utilise beaucoup d'anglicisme, alors que sur les bords de la Méditerranée ou en Afrique, on est toujours à un français, je vais dire, un peu plus correct et un peu plus châtié.
Quand l'OIF dit que, en fait, il prévoit un boom d'ici quelques années, c'est-à-dire que le nombre des locuteurs du français pourrait varier entre 477 millions et 747 millions à l'horizon 2070, il exprime ce boom notamment par le boom démographique en Afrique. Vous êtes d'accord également avec cette conclusion ?
Oui, mais c'est une addition. Il n'y a pas que la démographie. Donc, il y a une démographie qui est ultra positive en Afrique, mais oui, aussi dans les autres pays francophones. Donc, il faut savoir que la démographie en France est positive ces dernières années. Il y a eu un petit hic, je pense, l'année dernière, mais la francophonie dans l'Hexagone est positive. La même chose dans les Caraïbes, la même chose au Québec. Donc, mais en Afrique, c'est vrai qu'on peut ajouter un zéro sur la démographie, mais ce n'est pas uniquement la démographie qui va pousser l'usage de la langue française. Mmh. Il faut savoir aussi qu'en Afrique, si je prends l'exemple du Sénégal, la jeunesse se détache, par exemple, des langues comme le Wolof vers le français. Et ça, ce n'est pas dû aux professeurs, ni aux écoles, ni aux administrations. C'est simplement dû à l'Internet, à la toile. Parce que quand vous voulez jouer à Fortnite ou quand vous voulez regarder des clips ou regarder des films, ça va être très difficile de les regarder en Wolof et vous allez devoir les regarder en français. Donc il y a une addition non seulement à la démographie, mais aussi certaines langues qui sont moins représentées sur la toile, et c'est dommage, mais dans les 5 langues qui tirent l'Internet, il y a la langue française.
Alors, mais est-ce que cette langue est encore perçue comme la langue du colonisateur dans certains pays, notamment dans les pays francophones en Afrique?
Je pense que non. Je pense que les Africains en Afrique subsaharienne ont bien compris que c'était leur langue maintenant, puisque le français est principalement parlé. L'axe de la francophonie a bougé et n'est plus à Paris, mais plus à Kinshasa ou à Brazzaville, dans cette mégalopole. Mais par contre, sur les rives de la Méditerranée, il y a certains pays comme l'Algérie qui font une fixation sur la langue française comme la langue du colonisateur. Moi, je suis belge, je vous avouerai que nous avons été aussi envahis par les Français, soumis par les Français. Ce n'est pas pour ça qu'on doit être fâché sur eux autant d'années après. Et comme le disait Cathy Piacem, qui est
un... Mais peut-être que la question de la colonisation n'est pas réglée, qu'il y a encore un malaise, notamment des mémoires très difficiles, une question de mémoires qui n'ont pas été résolues, et c'est ce qui entraîne peut-être un sentiment complexe vis-à-vis de la langue française.
Je vous signale quand même que pour le Maghreb, les 3/4 de la population a moins de 30 ans. Oui. Ce sont personnes qui n'ont jamais connu de dictat, de soumission, de colons, etc. Et donc, on est dans un discours qui n'est plus d'actualité. Je pense qu'on doit passer à autre chose et regarder vers le futur. Et le français, c'est Maître Gims, c'est Laurel San, ou c'est les tutoriels en français pour travailler, je vais dire, sur certains travaux universitaires ou réparer sa voiture, tout simplement, et pas la langue du colon. Je pense que vos auditeurs, s'ils sont jeunes, ils doivent se dire que la langue française, c'est leur langue à eux, pour leur plaisir, pour leur loisir, et pas penser à une langue de colonisation.
Restez avec nous, Bruno Bernard. Je rappelle que vous êtes enseignant, maître de conférence, également consultant pour la Commission européenne. Nous avons en ligne Martial. Martial, bonjour.
Allô ?
Oui, Martial, bonjour. On vous écoute, bienvenue.
Oui, bonjour, merci bien. Mais, je voulais dire que le français s'est taillé la part du roi, de par le monde et en Afrique particulièrement.
Oui.
Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'interlocuteur de tout à l'heure, quand
Bruno Bernard,
la langue française ne peut pas être perçue comme une affaire liée à la colonisation. Je crois que ça, c'est un préalable à tout. C'est-à-dire que on n'a pas appris la langue française parce que c'était un plaisir de choisir entre telle langue et telle autre, mais c'est une langue qui est là et qui nous est qui est arrivée en Afrique pour des raisons que nous connaissons tous. Donc, ce préalable-là, d'une façon ou d'une autre, ne peut pas être écarté. Et bon, mais cependant, quand on prend de l'altitude, on ne va plus se limiter à ces choses-là pour s'empêcher de s'ouvrir au monde, pour s'empêcher de se cultiver, pour la simple et bonne raison qu'on rumine certaines choses.
D'accord.
Ça, c'est une réalité qui va de soi, mais le préalable, il est là. Et moi, je dis aujourd'hui, je pense que la question qui devrait plutôt être à l'ordre du jour.
Oui.
Elle est beaucoup plus liée aux avantages que nous,
oui.
qui utilisons et qui nous exprimons dans cette langue.
Oui.
Quels sont les avantages et les laissez-passer qu'elle peut nous donner de par le monde.
Oui, oui.
C'est-à-dire que on devrait quand même avoir des privilèges liés au fait que bon voilà.
Des privilèges, vous dites. Oui.
Voilà, des privilèges liés au fait que voilà. Cette culture, nous la véhiculons à travers le degré d'expression de liée à cette langue-là.
Très bien. Merci beaucoup.
Là, une chose est certaine, c'est que c'est indéniable que le sens inverse n'est plus évident.
Oui.
C'est-à-dire que cette langue, elle est là, elle s'est imposée.
Oui.
Et maintenant, celui qui veut faire le comeback aura du travail à faire, et j'espère qu'il le fera. Bon, maintenant... si on veut développer certains petits pôles de distraction, de complaisance pour essayer de parler en wolof ou ceci ou cela,
ouais.
C'est ce à quoi nos langues serviront finalement. Hein.
D'accord.
Mais pas réellement dans le sens d'une imposition d'une autorité internationale.
Okay.
Donc le français a la part belle et puis va de mieux en mieux et va se porter de mieux en mieux dans le monde, quoi.
Merci beaucoup Martial pour votre intervention. 01 55 07 58 00, 01 55 07 58 00. Notre invité depuis Bruxelles en Belgique, Bruno Bernard, enseignant, maître de conférence, consultant pour la Commission européenne et spécialiste de la francophonie. Bruno Bernard, vous avez entendu notre premier auditeur qui parlait d'un avantage aujourd'hui de parler français. Est-ce que c'est le cas en Afrique aujourd'hui? C'est vraiment un avantage, même sur le plan du commerce aujourd'hui?
Pour répondre à votre auditeur, Martial, je voudrais lui dire que je fais partie de la fondation Sénacpon pour la diffusion des proverbes africains.
Oui.
Et nous diffusons ces proverbes africains de tous les pays de tous les pays aussi bien anglophones que francophones, ou de langue portugaise, ou même d'éthiopienne en Afrique, mais nous les diffusons dans la langue française. Et donc, la langue française est cet outil dont nous nous servons pour propager la culture africaine aussi bien en Europe qu'en Afrique. Donc oui, c'est un avantage qu'on peut développer. Et pour revenir à votre question, au point de vue commerce, je déplore souvent et j'encourage beaucoup vos auditeurs à faire du commerce entre francophones de l'Afrique. Je trouve un peu dommage.
Pourquoi ce n'est pas trop le cas selon vous ?
Pas trop le cas. Donc les Marocains, par exemple, ont très bien compris et les Marocains vont faire de très bonnes affaires en Afrique subsaharienne parce qu'ils utilisent la langue française, mais je ne vois pas la même chose venant des Tunisiens ou des Algériens. La même chose pour Djibouti. L'Afrique pourrait travailler plus avec l'Est, donc avec Djibouti ou Madagascar qui sont des pays francophones, ou les Comores, ou l'île Maurice. Et je vois parfois des courriers qui partent en anglais vers des pays francophones. Et je trouve ça dommage, puisque quand on travaille dans la même langue, l'augmentation du commerce est de 65% si on fait du commerce dans la même langue.
Vous dites que dans certains pays, l'anglais reste la langue du commerce.
Mais non,
notamment des pays francophones africains.
Oui, mais non, ce sont les francophones, aussi bien belges que suisses que français. J'ai déjà vu des Français qui envoyaient à Djibouti une lettre de demande de transport en anglais, ne sachant pas qu'à Djibouti, les personnes sont francophones, ou la même chose à Madagascar. Donc, même quand vous êtes au Sénégal, parfois vous voyez des mails ou des documents en anglais, en francophone, et c'est dommage.
Oui. Restez avec nous, Bruno Bernard, nous allons accueillir Romain Taco. Romain, bonjour.
Oui, bonjour Amir JDA.
Bonjour Romain, on vous écoute, bienvenue.
Bonjour à votre invité.
Oui.
Et effectivement, comme il disait un petit peu tout à l'heure, l'anglais est très, très présent partout. Parce que nous avons beaucoup de messages que nous ne comprenons pas, que ça nous arrive en anglais. Vous avez contacté, c'est bien en anglais.
Oui.
Et moi, je viens du Congo-Kinshasa.
Oui.
Donc, je voudrais savoir, parce que nous avons, je vois souvent des grandes radios, télévisions, qui sont francophones, mais qui véhiculent bien les messages qu'ils ont envie de véhiculer à travers le monde.
Oui.
Mais en feedback, on n'a pas grand chose. Ma question, c'est surtout vous poser à l'invité.
Oui.
Qu'est-ce que ça nous apporte, nous, étant africains, nous qui sommes francophones, parce que Kinshasa, lui tout seul, il représente au moins 50% de la francophonie. C'est la deuxième langue, après le Canada.
Oui.
Donc, des pays comme ça, qu'est-ce que la francophonie nous apporte du point de vue économique et culturel? Parce que j'ai l'impression que même, là, c'est la journée mondiale de la francophonie, mais beaucoup de Français ne sauront même pas, parce qu'on ne leur parle même pas.
Oui, oui.
Donc, qu'est-ce que ça nous apporte à nous? Pourquoi nous devons nous accrocher?
D'accord.
C'est ça que je vais dire par là.
Très bien. Ben, merci beaucoup, Romain, pour votre question. Alors, on donne tout de suite la parole à Bruno Bernard. Vous avez entendu la question de Romain. Qu'est-ce que ça nous apporte à nous, Africains, d'utiliser le français, par exemple, pour le commerce?
Alors, pour répondre à Romain, moi qui ai passé au moins 10 ans au Katanga, donc au fin fond de RDC, qu'est-ce que ça apporte la francophonie? Eh bien, la francophonie, ça permet au Congo d'exporter ses produits vers certains pays francophones, car il a des difficultés parfois pour le faire avec les pays anglophones. Il faut pas oublier non plus, je voudrais pas revenir sur des conflits malheureux, mais que les conflits dans l'est du Congo ont été aussi des conflits linguistiques avant des conflits, je vais dire, ethniques. Et donc, qu'est-ce que ça apporte au Congo? Ça lui apporte une grande stabilité, quelque part, parce que même s'il y a des conflits spontanés, on va dire que le Congo, à ce jour, a gardé ses frontières et a maintenu son intégrité territoriale, ce qui n'est pas le cas du Soudan, ce qui n'est pas le cas de l'Éthiopie. Donc, le fait d'être accroché à la sphère francophone a permis une certaine stabilité. Et je pense que dans les années qui vont venir, maintenant le Congo est en train de tourner la page de beaucoup de choses, il y a beaucoup d'universités qui vont chercher à s'implanter au Congo, mais il faut aussi que les Congolais francophones reprennent la main et imposent aux autorités, comme à l'Académie française, d'avoir une parité de personnes venant du Sud et de personnes venant du Nord. Moi, je me bats pour que l'Académie française, il y a des fauteuils actuellement qui sont disponibles, il faut des femmes et des hommes et des femmes d'Afrique. Mmh. Il faut que l'Académie française ne soit plus constituée de vieux blancs. Mmh. Et c'est un vieux blanc qui le dit, donc j'ai le droit.
D'accord. Mais pensez-vous que dans certains pays en Afrique, les langues nationales vont se substituer au français, hein? Vous êtes plutôt optimiste, vous avez cité le cas du Sénégal, mais on voit au Sénégal, par exemple, plus de chaînes de télévision qui utilisent le Wolof au lieu du français.
Oui. Non, je ne suis pas optimiste parce que le français va cannibaliser des langues locales, hein, soyons réalistes. La francophonie est plurilinguiste par définition, donc il faut un équilibre, mais il faut se rendre compte que les langues de travail, les langues d'études quand vous êtes à l'université, si vous faites des études de médecine, vous ne pouvez pas faire des études de médecine en Swahili, en Lingala ou en Wolof.
Oui.
Et c'est là que ça va jouer dans l'Internet.
Oui.
Et dans l'enseignement. Je ne dis pas que ce sera une langue des élites, naturellement, mais ce sera une langue. Et il y a la même chose en Hollande, par exemple, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, quand vous allez à l'université, il y a certaines études que vous ne pouvez plus faire en néerlandais. Pourtant, la Hollande, c'est 16 millions d'habitants, très riches, qui vivent très bien, qui ont un grand passé, une langue importante, mais ils sont en train de se ranger derrière d'autres langues pour étudier.
Mais est-ce que dans certains pays, d'ici quelques années, notamment dans le domaine de l'enseignement, l'anglais pourrait remplacer un jour le français?
Pas en Afrique subsaharienne.
Oui.
Pour une raison toute simple, c'est que...
Dans ce qu'on appelle l'Afrique anglophone, par exemple.
En Afrique anglophone, il est
c'est déjà le cas.
Que dans, dans des pays comme le Nigeria, c'est évident que les personnes sont anglophones.
Oui.
Mais on est face à une élite aussi. Donc le Nigeria va devenir totalement anglophone par les études et par les élites et par l'administration, tout en utilisant les langues locales. Et l'Afrique subsaharienne, on va dire francophone, va devenir de plus en plus francophone et francophile, par réalité. Par contre, ce qui manque, c'est un cinéma francophone africain.
Oui.
Donc il y a Bollywood en Inde qui utilise la langue anglaise, vous avez la même chose au Nigeria, vous avez la même chose aux États-Unis vis-à-vis des Anglais, la même chose au Brésil vis-à-vis des Portugais, mais l'Afrique n'a pas encore assez de production cinématographique en français.
Alors nous avons en ligne Karim. Karim, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour, on vous écoute.
Bonjour, bonjour. Je parle à propos de l'Afrique francophone et qui a du mal à être bilingue.
Est-ce que vous pouvez écouter, Karim, couper la radio, s'il vous plaît, le son de votre radio?
Oui,
Est-ce qu'il y a un écho Allez-y.
C'est les aides de l'Afrique francophone d'être bilingue, parce que le bilinguisme permet des échanges culturels avec les pays voisins, qui sont nous comme le l'Ouganda, qui est le voisin du Centrafrique et de la RDC.
Oui.
Et le Soudan, qui est le voisin du Centrafrique et du Tchad. C'est-à-dire, il faut, comme au Tchad, on commence à prendre, comme exemple du programme international sur l'enseignement, on commence à prendre l'anglais, l'arabe, dans les, et le français, dès le bas âge. Ça permet plus d'échanges culturels de se former dans le pays voisin en matière universitaire. Le Nigeria, on apprend aussi le français.
Oui.
Vers Maïdougouri, on apprend le français. Des échanges commerciaux qui se passent en langue française. C'est-à-dire, ce qu'on devait faire, c'est-à-dire ne pas seulement associer le français seulement dans les pays francophones, mais les associer aussi dans les pays voisins anglophones et arabophones. Dire ça.
D'accord.
Pour permettre plus d'échanges économiques et culturels.
D'accord.
Je regarde le cas du Rwanda. Le Rwanda est plus développé en matière de bilinguisme.
Oui. Mmh, mmh.
On parle arabe, on parle swahili, on parle français et l'anglais. Si nous pouvons être la même chose, ça nous permet d'être un peu plus expansifs vers les pays anglophones, vers les pays arabophones. Lorsqu'on voyage, on va à l'étranger, on peut s'exprimer librement.
Très bien.
On peut comprendre leur culture.
Très très bien.
Besoin, ce qui se passe chez eux.
Merci beaucoup Karim pour votre intervention. 01 55 07 58 00. Nous avons en ligne Manjou. Manjou, bonjour.
Oui, bonjour monsieur.
Bonjour.
En fait, je rejoins l'auditeur qui nous tout à l'heure qui nous parlait de ça n'a aucune utilité en fait, comme il a dit.
Ouais.
On s'entretient entre nous. Les Africains, je dis, on pense cette langue-là, on les met en langue, alors que les Français, eux, ils sont même pas qu'on est journée de la francophonie aujourd'hui.
Ouais.
On est la colonisation, c'est une langue qui nous a été imposée au 21e siècle. Vous savez, il y a au Cameroun, il y a des Camerounais qui s'entretiennent, soi-disant francophones et anglophones, pour des langues étrangères. Et la francophonie aujourd'hui ne rapporte absolument rien.
Oui.
Comme que, vous voyez, tout récemment, ils ont voté leur loi pour la restriction de l'admission des étrangers dans leur université.
Oui, oui.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu.
Oui, oui, je comprends très bien.
On nous empêche même de venir faire nos études ici. Et je vais venir ici, moi, le président, comme il a dit.
D'accord.
Je veux bien préférer quoi qu'on fasse la promotion de la langue africaine, le swahili, le mandingue, le haoussa,
ouais.
Ça nous apporte plus que le français ou l'anglais. Parce que la langue aussi, c'est une richesse. Donc, c'est ce qu'on doit comprendre aujourd'hui.
D'accord.
Voilà.
Merci beaucoup Manjou pour votre intervention. Alors Bruno Bernard, vous avez entendu nos auditeurs, notamment Manjou, qui parle notamment de la réciprocité qui n'est pas forcément vraie, c'est-à-dire que le français se porte bien sur le continent africain, mais beaucoup de notamment d'étudiants africains qui veulent venir en France étudier rencontrent des problèmes.
Oui, pour les visas, je suis totalement d'accord qu'il va falloir que le président Macron, d'ailleurs la loi n'a pas été votée, mais le président Macron a invité à avoir plus d'Indiens et plus de Chinois à venir en France étudier en français, et a réduit quelque part, ou veut augmenter le Minerval des étudiants africains, qui était actuellement gratuit.
Oui.
Je suis totalement contre cette décision, mais je pense que le président Macron va devoir changer son fusil d'épaule, dans le sens où déjà beaucoup d'universités françaises se sont opposées.
Bien sûr, oui. Il y a effectivement une fronde de la part de plusieurs universités.
Oui, mais il faut que l'Afrique aussi bouge de manière active. Donc ça ne doit pas être les universités françaises qui doivent se battre pour les étudiants africains.
Ouais.
Il faut que les dirigeants africains reçoivent des courriers, des courriels de leur population en disant « je veux que mes enfants aient étudié en France ou ailleurs, et qu'est-ce que vous allez faire, vous, quand vous êtes assis à la table, non seulement échanger sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes d'énergie, etc., mais nous, on exporte des minerais, des matériaux, il faut qu'en échange, on ait une réciprocité pour nos étudiants.
D'accord. Vous souhaitez que les chefs d'État africains, par exemple, interpellent la France sur cette question, par exemple, de l'accueil des étudiants étrangers qui veulent, des étudiants africains qui veulent venir étudier en France?
Exactement, et qu'ils se secouent, qu'ils soient positifs à ce niveau-là, parce que je l'ai très peu entendu dans des réunions que cette demande soit sur la table.
D'accord. Nous avons en ligne Anne Kwame, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, oui. Bienvenue, on vous écoute.
Bon, voilà. Moi, je pense que la francophonie nous a plus apporté de problèmes que de bonnes choses, quoi.
Ouais.
Et moi, je crois que quand vous prenez même la structure en tant que telle, ça a été porté par feu le Polseda Senghor.
Ouais.
Aujourd'hui, moi, je pense qu'il est le Faubonny, les Senghor, ils ont porté à bras le corps la francophonie. Mais aujourd'hui, leurs ressortissants sont payés à monnaie des singes, parce que quand vous prenez le français, c'est la langue la plus parlée. Il est plus parlé en Afrique qu'en Europe, parce que la langue la plus parlée en Europe, c'est l'Allemagne. Oui. Et quand vous voyez, par exemple.
Moi, je suis pas tout à fait sûr que ce soit l'allemand qui soit la langue la plus parlée en Allemagne. Je n'ai aucune preuve, je ne sais pas. J'en sais rien.
Oui. Vous voyez la population de l'Allemagne.
Oui.
L'Allemagne est parlée en Allemagne avec plus de 80 quelques millions d'habitants en Autriche.
Oui.
Liechtenstein, la plus grande partie de la Suisse.
D'accord.
Et tout ça, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la langue la plus parlée en Europe.
D'accord. Mais alors, pour revenir justement au thème, alors, vous dites que
à la francophonie,
ça nous apporte rien. Expliquez-vous. Pourquoi ça nous apporte rien? Expliquez-nous.
Ça a plutôt soutenu la dictature que fait la promotion de la culture. Parce que quand vous voyez, par exemple, les nominations des secrétaires de la francophonie, on prend généralement les hommes politiques au lieu de prendre des hommes culturels comme Calice Péala, des grands écrivains qui font la promotion de la langue dans leurs œuvres littéraires. On va prendre des présidents, des anciens présidents.
Oui, effectivement. C'est très intéressant ce que vous dites. Effectivement, c'est vrai que ce sont plutôt des politiques qui sont à la tête de l'OIF que des hommes de lettres.
Il y a un brillant congolais qui enseigne dans les universités aux États-Unis. Ici, il n'a pas été reconnu. Il a fallu qu'il passe aux États-Unis pour que il soit quelqu'un bien vu et que la France l'invite à des universités ici pour faire des conférences. Et ça a été toujours comme ça.
Oui.
La francophonie ne voit pas bien les Africains qui portent très haut cette langue.
Oui.
Et c'est des pays comme la Chine, la Roumanie, tout cela que on accorde les bourses ici. Les gens sont bien traités ici dans les universités. Que l'Afrique où on parle en majeure partie, le français. Et ça, c'est payer ce continent à la monnaie des singes.
D'accord. Merci beaucoup Anne Kwame pour votre intervention. Alors Bruno Bernard, pour revenir à l'intervention de notre dernier auditeur, effectivement, ceux qui sont élus à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie sont plus des politiques que des hommes ou des femmes de lettres qui écrivent par exemple en langue française. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe par exemple ou un problème?
Je pense que l'Organisation internationale de la francophonie et les francophones, ce sont deux choses différentes. Aujourd'hui, c'est la fête des francophones, ce n'est pas la fête des fonctionnaires de l'Organisation internationale de la francophonie. Et pour revenir à votre auditeur, moi je suis d'accord avec lui, mais il a quand même eu le plaisir de s'exprimer en français, sur une radio en français, sur des médias libres, pour exprimer ses idées. Et je demande à voir s'il pourrait le faire, en Afrique, dans certains pays, dans la langue locale. Donc, on doit revenir sur le fait que la francophonie, ce n'est pas seulement une langue, c'est des valeurs aussi de démocratie.
Oui.
Donc, c'est vrai qu'on devrait mettre plus en valeur, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a 20 minutes, à l'Académie française ou dans certaines nominations, des Africains et des Africaines, et j'insiste sur le « africaine », aussi à certains postes pour faire rayonner la langue française. Mais la langue française est quand même un moteur de démocratie. Et si on regarde les résultats économiques dans l'ouest de l'Afrique actuellement, les résultats économiques sont supérieurs. Il y a 7% de croissance. Les résultats sont bons, meilleurs qu'en Chine. Et les salaires en Côte d'Ivoire sont parfois supérieurs aux salaires en Roumanie ou en Moldavie ou même au Portugal.
D'accord. Alors, pour revenir à l'Organisation internationale de la francophonie, elle est dirigée depuis peu par une Rwandaise, Louise Mushi Kiwabo. Oui. Alors, est-ce que le Rwanda symbolise ce rapport ambigu, compliqué qu'ont certains pays africains avec la France, des pays dont le Rwanda qui privilégie l'anglais dans leur pays, notamment dans l'enseignement?
Oui, mais le Rwanda est un pays village de quelques millions d'habitants regroupés autour de la capitale. Quand vous sortez de la capitale et que vous roulez 20 kilomètres, les personnes ne parlent plus ni anglais ni français. Donc, moi je veux bien. C'est vrai que pour l'enseignement, ça va changer beaucoup de choses, mais l'enseignement privé et l'enseignement des élites au Rwanda se fait toujours en français. Mmh. Et donc, parfois, les personnes qui vous envoient des messages en disant « il faut du tout français ou du tout anglais » mettent leurs enfants à l'école en français ou en anglais. Donc, on doit aller vers du plurilinguisme, donc parler plusieurs langues, mais pour étudier, c'est vrai qu'il faut maîtriser au moins une langue, et je pense qu'en Afrique subsaharienne ou tout le long de la côte de la Méditerranée du côté africain, l'usage du français pour faire des études est quand même une langue privilégiée.
Mmh. Comme on sait que l'Afrique est très connectée, vous dites que le poids de la langue française dans l'univers médiatique, en particulier sur Internet, va être de plus en plus important. So.
C'est évident. Déjà par les téléphones intelligents, les smartphones, vous avez beaucoup de gens dans les villages maintenant.
Merci Bruno Bernard. Merci, nous arrivons à la fin de cette émission. Rendez-vous demain pour un nouveau JDA.